Studio Tamani, voici nos informations en français.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale de Studio Tamani. Au sommaire, dans la région de Menaka vers la frontière du Niger, les affrontements sont de plus en plus intenses entre la coalition MSA Gatiar et des combattants de l'EIGS. Et à Gao, les braquages armés se sont multipliés, regrettent les habitants. À Kadiolo, les impôts et taxes foncières restent impayés. Des propriétaires fonciers ignorent même qu'ils doivent s'acquitter de l'impôt sur le revenu foncier. Des détails avec notre envoyé spécial de retour de Kadiolo. Le dossier du jour s'intéresse au métier de bûcheron. Cette activité jugée pénible et pourtant rentable explique les professionnels de l'abattage du bois. À la présentation de ce journal, Adama Amadou Haïdara, la technique à Mamadou Attara. Les affrontements se sont poursuivis ce dimanche 5 juin 2022 entre la coalition MSA Gatia et des combattants de l'EIGS près d'Anderboukan dans la région de Menaka. Samedi dernier, une colonne de véhicules de la coalition MSA Gatia a repris la ville d'Anderboukan à 90 km de Menaka à la frontière avec le Niger. Des combats ont opposé une partie de cette coalition aux combattants de l'EIGS à quelques kilomètres de la ville. Le point avec Hamsitou Touré.
Les premières informations qui ont circulé dans la journée du dimanche annoncent que la ville était sous le contrôle des combattants de l'EIGS qui auraient délogé la coalition de la ville. Ces informations faisaient état de plusieurs morts et blessés. Au cours de la même journée, un communiqué de la plateforme des mouvements du 5 juin confirme les combats. Selon ce communiqué, c'est la base de l'EIGS à 4 km de Tagalalt, une localité située à 30 km d'Anderboukan, qui a été le théâtre de ces violents combats. Il précise aussi que l'EIGS a enregistré plusieurs dizaines de morts, des armements calcinés et la base complètement détruite. Du côté de la coalition, le document fait mention de quelques disparus, des véhicules calcinés et des blessés évacués sous escorte à Menaka. De son côté, la MINUSMA aussi a annoncé dans un tweet qu'à la demande des FAMA, la mission a organisé ce dimanche soir l'évacuation médicale de 4 soldats maliens. Notons aussi que nos tentatives pour faire réagir les autorités locales ont été vaines.
L'insécurité règne toujours dans certains quartiers de la ville de Gao. Des tirs d'armes sont devenus le quotidien de la population. Les braquages à main armée sont récurrents, de jour comme de nuit, regrettent des habitants de la ville. Cependant, les autorités sécuritaires rassurent que la situation est sous contrôle. Arkia Touré.
Au quartier 4 de Gao, aussi appelé Aljana Banja, nombreux sont ceux qui déplorent l'insécurité. Il ne se passe un jour sans qu'il y ait des braquages ou des tirs de sommation, indique-t-il. Il demande le retour rapide de la stabilité dans la zone.
Il n'y a de la sécurité nulle part.
Quand on prend les quartiers de Gao, d'Aljana Banja, c'est la zone rouge. Depuis 22h et 21h, on garde nos motos et sortir à pied.
Nous, les vieilles personnes, on est obligés d'aller faire nous-mêmes nos commissions la nuit. On ne peut pas envoyer nos filles par peur qu'elles soient enlevées ou violées.
Même de partir au grain pendant la nuit, là, c'est un problème.
On a un jour proposé à quelqu'un une maison moins chère au 4e quartier. Il dit qu'il préfère qu'on le tire dessus que d'aller habiter dans ce quartier. On veut seulement la paix.
Cependant, certains affirment que les forces de sécurité font de leur mieux, même s'ils les invitent à redoubler d'efforts.
Chaque fois, vous voyez des militaires font des patrouilles à pied, ils font tout.
Tu vas voir les policiers en train de promener.
Les autorités font de leur mieux, mais on leur demande de faire plus d'efforts. On est rassuré, même si ce n'est pas un quartier facile.
Les responsables sécuritaire rassurent sur ce point. Ils estiment que toutes les mesures sont prises pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Ceci annonce également leur renforcement en équipement dans les jours à venir.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Au Mali, le désert avance, la température augmente et la pluviométrie diminue chaque année. La réduction des rendements agricoles et l'extinction progressive de la biodiversité provoquent une insécurité alimentaire chronique. C'est dans ce contexte que se tient la 23e édition de la quinzaine de l'environnement dans le pays. Le lancement a été présidé dimanche dernier à Bougouni par le Premier ministre Dr. Choguel Kokalamaïga. Le point avec Lale Tangara.
Une seule terre, c'est le thème cette année de la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée est célébrée le 5 juin qui marque le démarrage de la quinzaine de l'environnement. Pendant 2 semaines, des expositions et des journées scientifiques se tiendront à travers le pays. Une démonstration de nouvelles technologies, des formations, des campagnes de reboisement et d'assainissement sont aussi inscrits au programme. L'objectif est de parvenir notamment à un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement au Mali. Cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement se tient dans un contexte où le désert continue d'avancer du nord vers le sud du Mali. La pluviométrie a diminué en moyenne de 6 à 36% dans les régions au cours des 30 dernières années. La température, elle a augmenté de près de 2 degrés Celsius. Le cycle agricole est devenu imprévisible. La compétition autour des ressources naturelles engendre des conflits entre communautés et des mouvements de population qui recherchent de nouvelles perspectives. Ce stress environnemental est également exacerbé par le conflit qui touche le nord et le centre du pays depuis des années. Ces défis mobilisent de nombreux acteurs autour de la quinzaine pour trouver des réponses. Les discussions se tiennent à différents niveaux jusqu'au 17 juin prochain, ce qui marque la journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour cette journée, les thèmes choisis est tous ensemble pour vaincre la sécheresse.
La direction générale de l'Agence de l'environnement et du développement durable indique que le secteur de l'environnement a beaucoup évolué. Ses responsables mettent en avant l'utilisation des nouvelles technologies pour s'adapter. Cependant, des organisations de la société civile estiment qu'il faut plutôt respecter d'abord les engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Les détails avec Assitou Kanté.
Nous sommes à Bougouni pour parler des innovations par rapport à la protection de l'environnement, déclare le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD. Selon Dr Alassane Ba, il faut une synergie d'action pour répondre aux défis.
Comme vous le saviez, Bougouni, c'est une région tout à fait spéciale qui s'adapte et qui répond à la thématique aujourd'hui qui a été choisie. Depuis 1972 à Stockholm, le secteur de l'environnement a beaucoup évolué. Les énergies renouvelables, la télédétection, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Voilà des grandes questions auxquelles nous allons débattre.
La plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable, PENACED, rappelle que des déclarations ont été faites à tous les niveaux. Il faut maintenant s'atteler à sa concrétisation, estime son président Ahmed Sekou Diallo.
Au niveau des négociations internationales, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a plus de déclarations que d'actions. Ce que nous souhaitons, qu'on aille à l'action maintenant, qu'on mobilise des ressources en matière d'avancée. Les partenaires se sont engagés à financer les pays les moins avancés dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il faut que ces engagements-là soient respectés.
Rappelons que le pays participe aux travaux de la pré-COP 27 sur les changements climatiques en cours en Borne, en Allemagne. Parmi les sujets en discussion, les accords de financement pour certains pays, comme le Mali.
On va à présent à Kadiolo, dans la région de Sikasso, où le service des impôts et la mairie font face au non-paiement des impôts fonciers. La majorité des propriétaires fonciers ignorent qu'elle doit s'acquitter de l'impôt sur le revenu foncier. Dans le souci de résoudre ce problème à l'amiable, les autorités locales n'ont d'autre choix que de s'armer de patience et multiplier les astuces et les sensibilisations pour changer les mentalités. Mamadou Samasekou, de retour de Kadiolo.
Selon l'inspecteur des impôts de la localité, le paiement des revenus fonciers est un véritable casse-tête à Kadiolo. Pour lui, il est impératif que les 15% des frais de location de chaque maison reviennent dans les caisses de l'État. Omar Sou, chef de centre des impôts de Kadiolo.
À Kadiolo, les contribuables sont disciplinés, les contribuables sont compréhensifs. Là où j'ai eu des problèmes, ça c'est l'impôt sur le revenu foncier. J'ai construit un immeuble, j'ai donné en location. Chaque année, il y a des impôts à payer sur cette location que tu perçois des locataires. En milieu Sinafo, ils n'ont pas pu comprendre comment ils peuvent sur leur maison, prendre les locations et venir donner ça à l'État. J'ai tout fait, aucun succès. On ne peut pas laisser, c'est le dit de l'État. On continue toujours avec les médias, les sensibilisations. Sinon, les autres impôts, aucun problème.
La mairie de Kadiolo, qui ne semble pas surprise de cette attitude de ses citoyens, prône elle aussi la multiplication de la sensibilisation. Daouda Bamba, 3e adjoint au maire de Kadiolo.
Nous partageons le même souci. Mais mon cher, ce n'est pas facile. Le développement, souvent, ce n'est pas facile. Ça, il faut le comprendre. Kadiolo était, on dit une ville, mais un gros village. Vous le savez, pour qu'on construire même sa cuisine, il faut chercher une autorisation. Mais à Kayolo, peut-être que les 2 ou 3% seulement qui font la démarche. Mais il faut le comprendre. La mairie sera obligée d'aider les impôts à sensibiliser les propriétaires du foncier par rapport à leur cotisation. Et présentement, nous sommes en train de sensibiliser et nous allons continuer.
Les rares propriétaires fonciers qu'on a contactés n'ont pas accepté de réagir à notre micro. Mais dans les coulisses, certains nous ont fait comprendre que les temps sont durs et n'ont pas les moyens de satisfaire la demande des autorités.
L'abattage du bois est pratiqué par le bûcheron, une activité de plus en plus présente à Bamako. Amma Traoré et Mamoutou Traoré pratiquent cette activité depuis des années. Le premier est marié et père de 5 enfants, le second est célibataire. Ils s'accordent tous sur le fait que ce métier est un travail pénible qui demande beaucoup d'habileté et des techniques. Notre reporter Moussa Malississoko est allé à leur rencontre.
Nous sommes au quartier Badjala 1, un quartier de la commune 3 du district de Bamako. Ici, comme dans beaucoup de quartiers de la capitale, il est difficile de parcourir les rues sans apercevoir un bûcheron. Hama Traoré est assis à côté des bois de ménage, la hache à la main. Le vieux bûcheron venait de découper des bois. Âgé de plus de 50 ans, il affirme que son travail est noble et rentable. Hama Traoré.
Tout ce qu'on entreprend dans la vie, il faut bien le faire. C'est là dans l'honnêteté. C'est une activité qui peut nourrir son homme, même si c'est très difficile. Grâce à ce travail, j'ai pu épouser 2 femmes, prendre en charge mes 5 enfants. Mais actuellement, le marché de bois est menacé par le charbon. Les femmes achètent plus le sac de charbon que du bois. Comme je pratique ce boulot depuis plus de 30 ans, il est difficile de l'abandonner au profit d'un autre.
Mamoudou Traoré est un jeune bûcheron à Tomikorobougou. La trentaine porte un jean et un t-shirt marron trempé de sueur. Il exerce son activité quotidienne. Mamoudou Traoré offre ses services à un vendeur de bois, moyennant une rémunération.
Des fois, je peux gagner 1500 francs, 2000 francs, voire 2500 francs par jour. Je commence à 9h et je termine à 13h pratiquement tous les jours. J'aime travailler pour gagner ma vie. Il n'y a pas de saut métier. Seul le travail libère l'homme. C'est à travers cette activité que je paye ma location. De temps en temps, j'envoie de l'argent aux parents au village et bien
Toutefois, beaucoup d'adolescents arpentent les artères de Bamako avec la hache accrochée à leurs épaules pour mendier. Ils réagissent aux portières des véhicules pour avoir de quoi manger. Nombreux sont les habitants de Bamako qui déplorent cette situation.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Dans les régions à Saint, les semences des chrétiens catholiques ont été bénies ce dimanche dans la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Saint. Cela a été fait par le représentant de l'évêque abbé Frédéric Conné. Selon lui, l'objectif est de confier la campagne agricole à Dieu afin qu'elle soit bonne. Cette bénédiction a été faite à l'occasion de la fête de Pentecôte. Les travaux du pont de Gunkoto, situé dans le cercle de Makadougou, commune rurale de Mayina, se poursuivent. C'est une initiative des jeunes de la localité pour faciliter le trafic entre les villages environnants pendant la saison des pluies. Plus de 6 millions de francs CFA ont été mobilisés par la mairie, les ressortissants de la ville et des bonnes volontés. La population demande aussi de l'aide pour avoir du ciment. Colonel Ali Sidi Bé est le nouveau préfet du cercle de Bankas. Il a pris fonction vendredi 3 juin 2022 en présence des chefs de service, des responsables des organisations de la société civile et les autorités traditionnelles. Le nouveau préfet a demandé l'implication de tous pour le développement du cercle. Il a promis de s'investir dans ce sens. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite après moi, la version Bambara avec Idrissa Sakho. Bonne journée à tous. Chef-lieu de la 3e région administrative du Mali, Sikasso est une ville touristique. Elle dispose de plusieurs sites dont un est inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO. Même si certains de ces sites sont en train d'être restaurés, d'autres attendent toujours des financements pour les remettre en état. À Sikasso, la mission culturelle chargée de ces sites est confrontée à des difficultés. Il s'agit notamment du manque de moyens et des ressources humaines. Sekou Gadjigo s'est entretenu avec Zoumana Bamba, chef de la mission culturelle de Sikasso.
Sikasso regorge plusieurs sites touristiques, à savoir les ruines du Tata de Sikasso, le Mamelon à Fosse Commune et les collines de Nagafali et de Samori. En plus aussi, il y a le centre Sénifo.
Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire des deux sites qui sont le Mamelon et le Tata?
Quand tu vas transférer la capitale du royaume de Bouglamo à Sikasso, donc il a érigé le Mamelon, ça veut dire c'était une colline qui était là-bas, donc il a renforcé la colline pour, comme le chef du pouvoir. Et le Tata, aussi la même année, il a commencé la construction du Tata pour protéger les institutions du royaume et la population contre les attaques des ennemis. Donc c'est l'œuvre de Tchaba et son jeune frère Bameba.
Est-ce qu'aujourd'hui ces sites-là sont visités comme c'était le cas avant la crise?
Oui, ces sites sont visités. Même hier, tout près, j'ai reçu la visite des élèves de l'INA. Et chaque jour quand même que Dieu fait, il y a des visiteurs, que ça soit formel ou informel. Même 20 jours de cela aussi, il y avait les élèves de l'école d'état-major qui sont venus visiter les sites aussi.
Quel est le site qui intéresse beaucoup les gens quand les visiteurs viennent?
Généralement, c'est tous les sites. Hein. Mais généralement, on n'a pas de statistiques tenues, mais quand même, c'est tous les sites. Généralement, le Tata et le Mamelon.
C'est plutôt les visiteurs nationaux qui arrivent ici. Maintenant, les visiteurs les étrangers ne se signalent pas.
Il n'y a pas assez de visiteurs internationaux, mais généralement, c'est des visiteurs nationaux.
Est-ce que ces endroits-là font entrer de l'argent dans les caisses de la commune?
Il n'y a pas de frais de visite, sauf le centre Sénifo et le musée régional. Sinon, vraiment, les visites sont gratuites. Et généralement, on reçoit ces visiteurs, soit accompagnés ou soit seuls. Comme la mission culturelle, on n'a pas fixé des tarifs de visite.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des défis dans ce secteur-là au niveau de Sikasso?
Il y a plusieurs défis. D'abord, la mission culturelle, un problème d'effectifs, un problème de moyens. Parce que même la mission culturelle n'a même pas de moyens pour faire cette mission. Moi, je suis ni véhiculé, il n'y a même pas de moto pour le service. Alors, qui connaît M. Lecole, ça fait 12 km. Et le Tata, ça fait à peu près 9 km à la ronde. Donc, et plus d'autres choses, Farako, ça fait 25 km, Bougla, 6 km. Tout ça, il faut faire ça en moyen de déplacement ni rien, avec une seule personne aussi.